J'ai dit que les femmes aimaient mieux mes films que les hommes. Et effectivement, les hommes ont souvent été irrités dans mes films par la représentation masculine que je donne. Je montre des hommes faibles parce que je ne crois pas aux hommes forts. Vous voyez, j'ai souvent blagué là-dessus sur l'idée que pour moi, le général de Gaulle, vu par sa femme, devait être un petit enfant capricieux qui oubliait de mettre son écharpe. Et ça, je le crois profondément, que les hommes jouent une comédie sociale, mais que quand on les empêche de jouer cette comédie sociale, ils sont des enfants qui continuent à jouer aux petits soldats dans la vie. Et je me refuse à les montrer, à les prendre au sérieux dans leur représentation sociale. Et ça, je crois que c'est un point commun que j'ai avec les femmes. Les femmes ne prennent pas les hommes au sérieux dans les histoires d'amour. Les hommes sont démunis. Là, ils se conduisent vraiment comme des amateurs par rapport aux femmes qui ne se conduisent pas forcément professionnelles, mais qui au moins ont le mérite d'y avoir beaucoup pensé. Les femmes ne se contentent pas de vivre une histoire d'amour, elles la pensent en même temps, elles la commentent, elles disent « Tiens, en ce moment, notre couple marche, en ce moment, notre couple ne marche pas, vous voyez ?» Et puis elles quittent une aventure, elles entrent dans une autre. Tout ça avec comme si c'était un métier, comme si c'était une profession d'être femme. Alors qu'un homme, justement parce qu'il est pris par sa comédie sociale, dans une histoire d'amour, il est pris complètement dépourvu quand ça commence et quand ça finit. C'est ça que je montre dans les films. Dans le cas d'un film comme La peau douce, par exemple, où les femmes adhéraient complètement et où les hommes, en général, étaient assez heurtés parce qu'ils disent « Qu'est-ce que c'est, ce type? Il n'est pas viril. » Mais qui est viril dans la vie? Moi, j'ai jamais vu un homme viril. Je n'y crois absolument pas.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Dans le monde du cinéma, largement dominé par les réalisateurs américains, François Truffaut tient une place à part. Étudié et apprécié outre-Atlantique, notamment par Spielberg, qui insista pour lui offrir un rôle dans ses rencontres du troisième type, l'ancien critique de cinéma à la dent dure demeure une sorte de père spirituel pour les générations de cinéastes français qui lui ont succédé. Catherine Corsini s'enchante ainsi de la qualité de ses dialogues, leur fièvre, leur urgence. Arnaud Desplechin vante l'art de cet immense réalisateur, si proche de celui d'un Lou Beach, lui que Truffaut appelait d'ailleurs le patron. Mia Hansen-Love rappelle qu'il est celui qui a su le mieux raconter les enfants, avec pudeur et sans la moindre mièvrerie. Les frères Dardenne, eux, relèvent sa façon de filmer les corps en mouvement, habités par l'urgence, quand Christophe Honoré est fasciné par ses héros dévorés par des obsessions mortifères. Tous ces commentaires passionnants sur son œuvre, on peut les découvrir dans le livret qui accompagne le coffret, édité par Arte, réunissant 8 films de François Truffaut, restaurés, réalisés entre 1968 et 1978. De La mariée était en noir à La chambre verte, c'est un plaisir toujours aussi vif de revoir des films qui ont accompagné notre vie de spectateurs passionnés. Parmi ces textes, signés par des metteurs en scène d'aujourd'hui, beaucoup de femmes réalisatrices, sensibles à la façon dont Truffaut filmait les actrices, toujours au cœur de ses scénarios, et leur donnait systématiquement une sorte de force virile que l'on attribue généralement au sexe masculin. Actrice, scénariste, réalisatrice, Noémie Lvovsky a découvert Truffaut à 11 ans avec Baiser volé et y date très précisément la naissance de sa vocation cinématographique. C'est sur La chambre verte qu'elle a choisi d'écrire pour le livret de ce coffret, un film dont la radicalité, la folie et la puissance l'exaltent toujours. Bonsoir Noémie Lvovsky.
Bonsoir.
Merci d'être là pour partager notre passion pour François Truffaut. Alors, c'est un coffret formidable parce que ce sont 7 longs métrages. Ce ne sont pas souvent ceux qui ont connu les plus grands succès, mais les revoir aujourd'hui avec la distance, avec l'âge qui est venu, par rapport à ce qu'on a vu avec nos yeux d'adolescent, c'est vrai que c'est très très intéressant. Vous, par exemple, en tant que cinéphile, alors que vous avez commencé jeune, quel est votre premier souvenir de Truffaut? C'est Baiser volé, donc.
Oui, c'est Baiser volé et c'est... Je crois que c'est la première... Je crois que j'ai découvert Baiser volé à la télévision. En fait, j'ai découvert beaucoup de films à la télévision. Et à l'époque où la télévision était peut-être plus exigeante qu'aujourd'hui.
Arte, sûrement.
Arte reste oui, exigeante.
Oui, oui, heureusement. Mais, Arte est là, oui.
Voilà, et j'ai senti pour la première fois que quelqu'un derrière la caméra me parlait. Et me parlait comme si j'étais unique au monde. Voilà, j'ai senti que il était possible de, par Truffaut, par Baiser volé, et puis ensuite par les autres films de Truffaut, j'ai senti qu'il était possible de faire un cinéma qui aime la littérature et aussi un cinéma à la première personne. Et je me suis mise à j'aimais beaucoup lire. Et puis j'ai découvert, grâce à Truffaut, qu'on pouvait regarder un film...
Comme on feuillette les pages d'un livre.
Comme on lit un livre, oui. Ouais. Enfin, en tout cas, oui, qu'un film pouvait à la fois avoir un souffle romanesque incroyable et parler à la première personne et nous parler à chaque spectateur comme à une personne unique.
Alors, j'ai lu une interview de vous dans laquelle vous disiez que pour vous, Truffaut, c'est votre père de cinéma et que vos grands-pères, c'est Renoir et Rossellini qui sont justement les pères que revendiquait Truffaut aussi.
Oui, oui.
Donc, il y a vraiment une filiation. En tant que réalisatrice, alors, est-ce que Truffaut continue à vous accompagner et quelle porte il a ouverte précisément pour vous, en dehors du fait de vous autoriser de filmer à la première personne?
Avant ça, il a ouvert la porte de la cinéphilie. Parce qu'avant lui, j'aimais beaucoup certains cinéastes sans savoir que c'était les cinéastes que j'aimais avant tout. Moi, je voyais des films et je prenais pas conscience qu'il y avait quelqu'un, un metteur en scène derrière la caméra qui était encore plus à nu que les acteurs. Pour moi, les films, c'était les acteurs. Et par lui, j'ai découvert le cinéma d'auteur. Je savais pas, hein, bien sûr, que ça s'appelait le cinéma d'auteur. Mais en tout cas, en découvrant que la première personne à nous parler dans un film, c'était le cinéaste, j'ai découvert le cinéma d'auteur et puis la cinéphilie. Voilà, c'est-à-dire que la cinéphilie, si ça veut dire voir des films, peut-être avant tout pour le réalisateur ou la réalisatrice.
Noémie Lovski, alors j'ai été frappée justement dans le livret de voir que vous aviez écrit un texte sur La Chambre Verte. Et La Chambre Verte, moi c'est un film qui m'a toujours fascinée, mais c'est vrai que c'est un film qui est assez mal aimé du public. Il n'a pas eu un grand succès quand il est sorti, parce qu'en fait il fait un peu peur, parce que c'est quand même l'histoire d'un homme qui aime les morts, qui aime la mort, et qui vit dans la mort.
Je sais pas s'il aime la mort. En tout cas, c'est l'histoire d'un homme obsédé. Comme le personnage joué par Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes est obsédé. Mmh. Comme le personnage joué par Isabelle Adjani dans Adèle H est obsédé. Voilà, c'est un film d'obsessionnel. Et puis, c'est le film d'un homme qui, le personnage joué par Truffaut, et Truffaut, réalisateur, j'imagine, ne supporte pas qu'on laisse tomber c'est mort. Voilà.
Voilà, il s'appelle Julien Davenne, c'est un ancien combattant de la guerre de 14-18, où il a perdu beaucoup d'amis, sa femme est morte, il lui dresse un hôtel dans la maison, et quand ça ne suffit plus, il va reconstruire une chapelle dédiée à ses morts, et il va entraîner dans cette folie Nathalie Baye, qui joue le rôle d'une jeune fille qui, elle, a perdu un homme aimé. On les écoute, c'est une drôle de demande en mariage à l'envers.
Ils sont tous là. Tous ceux que vous avez connus. Tous ceux qui ont compté.
Oui, ils sont tous là. Et maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Je peux ?
Oui.
Cécilia, acceptez-vous de devenir avec moi la gardienne de ce temple, d'en partager les droits et les devoirs ? Acceptez-vous de veiller sur eux, avec moi, sur eux tous ? Ne me répondez pas tout de suite si vous voulez réfléchir. Mais laissez-moi vous dire que j'attends ce moment depuis longtemps. Depuis très longtemps. Ce que je désire, voyez-vous, c'est que mes morts deviennent les vôtres. Et qu'en retour, les vôtres deviennent les miens. Ne croyez pas que la figure soit achevée. Il y a place ici pour tous vos morts. Simplement, leurs flammes viendront s'ajouter à celle-ci. Dites-moi ce que vous souhaitez, dites-le-moi.
Ce que je souhaite ?
Oui.
Vous voulez le savoir ? Je souhaite que toutes ces flammes se mêlent. Se fondent jusqu'à former une montagne de lumière. Un seul flamboiement.
Voulez-vous dire que dans votre vie, il n'y a place que pour une seule célébration ?
Oui, une célébration.
Non. Je veux être certain de vous avoir comprise. Ainsi, tous vos morts ne seraient qu'un seul,
Oui.
Noé Milowski, c'est pas innocent que François Truffaut ait choisi d'interpréter dans ses films certains personnages. Il interprète là Julien Daven, comme il interprétera le docteur Itard dans L'Enfant Sauvage.
Et le metteur en scène dans La Nuit Américaine.
Et le metteur en scène dans La Nuit Américaine. Mais L'Enfant Sauvage, comme celui-là, ce sont des films, en fait, d'une extrême radicalité.
Pour moi, et je pense ne pas être la seule, Truffaut est radical. On a dit de lui qu'il était un cinéaste comme ça, un peu classique, un peu, mais pas du tout.
Non, ses films sont
fiévreux et racontent des personnages excessifs. Et après, ce qui est magnifique, je trouve, c'est que dans des personnages de passion, et ce sont des personnages extrémistes. Et ce qui est magnifique, c'est que chez Truffaut, il y a un désir de clarté, de limpidité, de simplicité très grand. Et il y a tout aussi fort une complexité et une folie des passions aussi grande que son désir de clarté, de simplicité, de limpidité. Ça me fait l'effet les personnages de Truffaut, Truffaut lui-même et sa mise en scène me font l'effet de coup de tonnerre dans un ciel limpide. C'est-à-dire que comme ça, on a l'impression que tout est clair et ça abrite des tempêtes et des tonnerres terribles. C'est magnifique.
D'ailleurs, vous avez associé tout de suite aussi à La Chambre verte L'homme qui aimait les femmes. Au fond, Truffaut, on le sait, se mettait dans tous ses films. Il y a toujours beaucoup d'histoires qui lui sont personnelles, de sa façon de voir le monde. Et dans cette histoire où Charles Denner joue un homme qui veut aimer toutes les femmes, toutes celles qu'il croise dans la rue, il y a beaucoup de François Truffaut. On va écouter non pas l'extrait toujours habituel sur les jambes des femmes sont les compas qui arpentent le monde, mais le moment où justement Charles Denner, qui joue, le personnage s'appelle Bob Moran, approche au fond de sa mort puisqu'il a fini d'écrire son livre et la dernière femme, c'est Brigitte Fosset.
Une femme pense à l'amour d'une façon plus générale que les hommes. Je vous assure que nous aussi, nous avons nos curiosités, nos envies brusques. Je peux vous le dire maintenant. La première fois que j'ai eu envie de vous, c'était au bureau à Paris quand vous discutiez avec la maquettiste.
Ah oui?
Je me souviens très bien. Il faisait très chaud et à un moment donné, vous avez enlevé votre pullover et vous aviez une cigarette à la bouche. Vous étiez tellement absorbé par la conversation que vous faisiez tout machinalement. Alors, vous avez enlevé votre pullover comme ça, en tirant sur le col, sans même enlever la cigarette de la bouche. Eh bien, brusquement, à cause de ça, j'ai eu envie de faire l'amour avec vous. La deuxième fois que j'ai eu envie de vous, c'était le lendemain. Vous étiez au restaurant en place de l'Odéon, avec Josiane, la maquettiste. Justement, comme par hasard.
Et je vous assure que j'ai rien fait avec la maquettiste.
Je ne dis pas que vous avez fait quelque chose avec elle. Je suis certaine qu'elle n'aurait pas demandé mieux. Et de toute façon, quand on voit quelqu'un avoir envie d'une personne à laquelle on pense de son côté, eh bien, cela augmente l'envie qu'on en a. Je ne sais pas si je suis très claire.
Si, si, vous êtes très claire.
Noé Milowski, on sait que dans ce film, il y a des flashbacks dans la vie de Bob Moran et on sait que ces flashbacks, en fait, c'est des flashbacks de François Truffaut sur sa mère. Donc, quand on regarde ce film aujourd'hui, c'est vrai que la première fois, on le regarde avec innocence, on va au cinéma, on se laisse emporter par l'histoire et comme vous le disiez, par les acteurs. Et puis plus tard dans la vie, on va le voir et on écoute la voix de François Truffaut et c'est très troublant.
Il a une voix très particulière. Il a un débit, un rythme très particulier et que ce soit des films de lui dans lesquels il joue ou des films de lui dans lesquels il joue pas, il y a une musique qui n'appartient qu'à lui. C'est-à-dire que des acteurs comme des grands acteurs qu'on a beaucoup vu jouer comme Depardieu, comme Catherine Deneuve, quand ils parlent dans les films de Truffaut, il n'y a que dans les films de Truffaut qu'ils parlent comme ça parce que ils ont attrapé la musique qui est propre à Truffaut. Et je voulais dire une chose par rapport à La Chambre verte. Et et à l'homme qui aimait les femmes, c'est que vous me disiez que Julien Daven dans La Chambre verte aime la mort. Je crois pas qu'il aime la mort. Je crois que il veut respecter un mort, plus un mort, plus un mort, plus un mort. De la même façon que le personnage joué par Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes, il aime pas la femme. Il aime cette femme, plus cette femme, plus cette femme, plus cette femme. Et cette accumulation, ces accumulations font de Daven et de Denner des grands, grands obsessionnels fiévreux qui n'auront jamais le temps d'aimer, d'honorer tout ce monde. J'étais très bouleversée par l'archive que vous avez passée au tout début de l'émission. Je la connaissais pas. Je trouve vraiment, décidément, il est d'une intelligence, d'une sensibilité, d'une intelligence fulgurante. Et vous me demandiez tout à l'heure, je crois que vous me demandiez tout à l'heure ce que j'avais appris presque en premier de Truffaut. Et en fait, je me souviens que j'ai pas seulement appris qu'il existait des auteurs de films par lui. J'ai aussi appris une façon d'aimer les hommes et une façon de se sentir une femme. Parce que dans les films que j'avais vus avant, à part Chaplin, Buster Keaton, les Marx Brothers, bon, qui étaient les films que je connaissais le mieux avant de découvrir Truffaut, mais sinon, souvent, je voyais des films dans lesquels on me montrait des hommes forts, musclés, contenant leurs émotions, ou voire n'ayant pas vraiment beaucoup d'émotions. Et tout à coup, grâce à Truffaut, je découvrais des acteurs hommes autres. Et je découvrais des personnages et des acteurs qui avaient une virilité fragile.
Chancelante, on pourrait dire.
Ouais. Oui. Enfin bon, en tout cas, ils avaient quelque chose de meurtri, de fragile, d'ambigu.
Et d'ailleurs,
les femmes étaient des héroïnes. Elles étaient regardées comme des héroïnes. Que ce soit Catherine Deneuve dans La Sirène du Mississippi, que ce soit Fanny Ardant dans La Femme d'à côté, ou encore Catherine Deneuve dans Le Dernier Métro, Jeanne Moreau dans Jules et Jim, dans La Mariée était en noir. Ce sont des femmes fortes, parfois des femmes délinquantes, comme Truffaut l'a été lui-même, délinquant. Ouais. Et surtout, elles sont héroïques. Et les hommes ne sont pas des héros. Et je me souviens que quand j'étais petite et que je découvrais les films de Truffaut, je crois que ça m'a donné l'autorisation et peut-être même le goût, l'attirance. Mais bon, ça, je ne sais pas. En tout cas, l'autorisation d'aimer des hommes fragiles. Parce qu'ils étaient fragiles.
Et ça a provoqué des malentendus avec le public quand, par exemple, il a fait tourner Depardieu dans La Femme d'à côté. C'est un homme qui se laisse aussi entraîner par une femme. Et dans La Sirène du Mississippi, bien entendu, l'icône absolue de l'époque, c'était Jean-Paul Belmondo. Et Jean-Paul Belmondo se laisse entraîner vers la mort, une fois de plus, par Catherine Deneuve, La Sirène du Mississippi.
Ton visage est un paysage. Tu vois, je suis neutre et impartial. Et les deux yeux, deux petits lacs marrons.
Marron vert.
Deux petits lacs marron vert. Ton front, c'est une plaine. Ton nez, petite montagne. Petite. Ta bouche, un volcan. Ouvre un peu, j'aime voir tes dents. Non, pas trop. Voilà, comme ça. Tu sais ce qui sort de ta bouche quand t'es méchant? Des crapauds. Des crapauds. Et des colliers de perles quand t'es gentil. Attends.
J'attends.
Parlons un peu de ton sourire maintenant. Oh non. Bon, celui-là. Ça, c'est celui que tu fais dans la rue, commerçant. En donne-moi l'autre. Le vrai. Celui du bonheur. Voilà. C'est ça. Formidable. Non, c'est trop. Ça me fait mal aux yeux, je peux plus te regarder. Attends.
Je t'attends.
J'ai les yeux fermés, pourtant je te vois. Je vérifie. Si j'étais aveugle, je passerais mon temps à caresser ton visage. Ton corps aussi. Et Si j'étais sourd, j'apprendrais à lire sur tes lèvres avec mes doigts, comme ça. Même si tout ça doit finir mal, je suis enchantée de vous connaître, madame.
Noémie Lvovsky, c'est une scène d'amour brûlante, sans sexe. Et pourtant, tout y est. D'ailleurs, dans ce film, La Sirène du Mississippi, il y a un amour absolument fantastique. Cet homme découvre... On a renversé les rôles. Cet homme découvre l'amour physique avec une femme qui a de l'expérience. Oui. Et on ne voit pas une scène de sexe. D'ailleurs, à cette époque-là...
Sans sexe, mais elle est d'un érotisme
absolu.
Brûlant, cette scène. Quand ils se disent « Attends, j'attends, j'attends », c'est tellement, c'est sexy, mais c'est aussi très...
C'est très explicite.
Clairement sexuel.
Oui. Si on n'avait pas les images, on penserait qu'il s'agit d'une scène d'amour dans un lit, effectivement. Oui. Mais d'ailleurs, il avait cette façon de filmer les femmes, les actrices, il en était systématiquement amoureux. On reparle de l'homme qui aimait les femmes. Lui, c'était à chaque fois qu'il faisait un film, il tombait amoureux de son actrice. Et ça donnait sans doute, pour vous qui tenez les caméras, il faut qu'il y ait comme ça un passage de désir entre... quel que soit le mot, désir, enfin, ça ne recouvre pas forcément le désir sexuel, mais il faut qu'il y ait un désir fort entre un réalisateur, une réalisatrice et un acteur, une actrice, pour que ça fonctionne.
Oui. Après, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de... Enfin, il faut pas, mais en tout cas, il y a quelque chose d'amoureux. Après, ça peut être quelque chose d'amoureux sans désir physique, sans histoire d'amour au sens où on l'entend, mais c'est quand même une histoire d'amour forcément entre un réalisateur et une actrice, mais aussi entre un réalisateur et un acteur. Je pense que, enfin, je peux pas évidemment parler pour lui, mais je pense que Truffaut n'a pas seulement été amoureux de ses actrices, il a aussi été amoureux de Jean-Pierre Léo, il a été amoureux du petit garçon de l'enfant sauvage, il a été amoureux de Charles Denner, de Depardieu, une autre forme d'amour, probablement, que celui qui portait à ses actrices, et aussi quelque chose de commun dans la forme d'amour, c'est qu'il était, leur réalisateur et il les regardait, il les faisait parler, il les faisait bouger, enfin voilà.
Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Ma vocation, c'est la fiction. Je suis là pour raconter des histoires. Et pour mentir, ce n'est pas le cinéma vérité, c'est le cinéma mensonge, vous voyez, c'est du mensonge organisé. C'est ça qui m'intéresse. Et ce mensonge organisé, évidemment, donne une espèce de vérité à la fin, mais il ne prétend pas la donner au départ. Et donc, quand quelque chose ne va pas, scénario, tournage, montage, je dis, ça ne va pas, ça fait documentaire, il faut trouver quelque chose, il faut raconter l'histoire dans un autre ordre, il faut renverser quelque chose, il faut... Et à ce moment-là, on fait l'appel au patron, Lubitsch, comment aurait fait Lubitsch, par exemple, qui avait un sens très fort de ça, de la chronologie, de la meilleure pour raconter une histoire, ou bien de l'ellipse à faire, du moment à faire sauter. C'est une façon autre de faire les choses, de chercher à... C'est comment, un respect du cinéma, c'est l'idée que je fais le cinéma dans le sens où il a été créé. À mon avis, le cinéma a été créé pour intensifier la vie, donc il faut y penser constamment à cette intensification. Parce que sinon, alors il n'y a qu'à filmer le trajet de quelqu'un qui va de la porte de Vincennes à l'Étoile, et avec les embouteillages, ça fera facilement une heure et demie, il n'y a pas besoin d'histoire, vous voyez, on aura filmé la vérité. Or, au cinéma, on ne perd pas de temps, c'est la vie merveilleuse, c'est la lampe d'Aladin, le tapis magique, c'est tout ce que vous voulez, on va d'une chose importante à une autre chose importante.
On sent bien que François Truffaut a été cinéphile, critique de cinéma. Il sait extraordinairement bien parler du cinéma, Noémie Lvovsky. Et il faut dire que dans ce coffret édité par Arte, il y a les bonus après chaque film. Et ça, c'est un bonheur. On entend sa voix. C'est toujours d'une intelligence, d'une précision. C'était vraiment quelqu'un qui ne faisait jamais rien au hasard. Arnaud Desplechin relève les plans, par exemple dans la scène qu'on a entendue dans La sirène du Mississippi, qui est une scène qu'on aurait pu filmer en plan fixe, un homme, une femme se parlent devant un feu de bois, et lui, il relève plus de 60 plans différents, champ contre champ. Il dit que c'était surtout un réalisateur extraordinairement talentueux.
C'était un immense metteur en scène qui a peut-être pas toujours été reconnu comme un immense metteur en scène, parce qu'il a ce désir d'apparente clarté et de grande simplicité. Derrière, c'est d'une complexité folle.
Il y a ce film magnifique qui est trop sous-estimé. D'ailleurs, on a cru que c'était un petit film sans importance, L'argent de poche, qu'il a tourné en 1976. Ça se passe au milieu de la France, en Auvergne. Ce sont des soi-disant des sketchs, mais en fait, c'est un film sur l'enfance absolument magnifique. Et à la fin, c'est Jean-François Stévenin qui parle. Et quand il parle, ben, on entend François Truffaut.
J'ai eu une enfance pénible, enfin beaucoup moins tragique que celle de Julien, mais pénible. Et je me souviens que j'étais très impatient de devenir adulte parce que je sentais que les adultes ont tous les droits, qu'ils peuvent diriger leur vie comme ils l'entendent. Un adulte malheureux peut recommencer sa vie ailleurs, peut repartir à zéro. Un enfant malheureux ne peut pas avoir cette pensée. Il sent qu'il est malheureux, mais il ne peut même pas mettre un nom sur son malheur. Et surtout, nous savons qu'à l'intérieur de lui-même, il ne peut même pas remettre en question les parents ou les adultes qu'ils font souffrir. Un enfant malheureux, un enfant martyr, se sent toujours coupable. Et c'est cela qui est abominable. Parmi toutes les injustices qui existent dans le monde, celles qui frappent les enfants sont les plus injustes, les plus ignobles, les plus odieuses. Le monde n'est pas juste et ne le sera jamais. Mais il faut lutter pour qu'il y ait davantage de justice. Il le faut, on doit le faire. Les choses bougent, mais pas assez vite. Elles s'améliorent, mais pas assez vite. Les politiciens, les gens qui nous gouvernent, commencent toujours leur discours en disant « Le gouvernement ne cédera pas à la menace », mais en réalité c'est le contraire, il cède toujours à la menace. Et les améliorations ne sont obtenues que parce qu'on les réclame fortement. Depuis quelques années, les adultes ont compris, et ils obtiennent dans la rue ce qu'on leur refuse dans les bureaux. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que les adultes, lorsqu'ils le veulent vraiment, peuvent améliorer leur vie, peuvent améliorer leur sort. Mais dans toutes ces luttes, les enfants sont oubliés. Il n'existe aucun parti politique qui s'occupe réellement des enfants. Des enfants comme Julien ou des enfants comme vous. Et il y a une raison à cela. C'est que les enfants ne sont pas des électeurs.
Voilà. 76, ça n'a pas pris une ride, Noémie Lvovsky.
Non.
Et on sent bien là, l'enfance a été, à cause aussi de la sienne propre, mais ça a été le grand combat aussi de Truffaut. Il y a souvent des enfants très particuliers dans ces films, dans La Chambre verte, évidemment L'argent de poche, évidemment L'enfant sauvage, mais il y a souvent des enfants. Dans La Chambre verte, il y a le petit muet.
Ah oui, le petit, bien sûr. Oui, les enfants reviennent. Il y a L'argent de poche, il y a cet enfant de La Chambre verte qui rappelle l'enfant de L'enfant sauvage. Il y a les 400 coups. On pense beaucoup à son enfance, à lui, qui était une enfance solitaire et de petits voyous. Il avait probablement besoin d'être adopté. Il l'a été par le cinéma, ou alors lui a adopté le cinéma. Et en vous parlant, là, je pense à tous ces cinéastes qui ont parlé des films de Truffaut édités.
Dans le livret.
Et je me dis, mais c'est cet amour qu'on a pour Truffaut, il est probablement très, très relié à ce que chacun d'entre nous a eu besoin d'adopter le cinéma et d'être adopté par lui.
En tout cas, c'est vrai que parmi les réalisateurs, on dit que faire tourner les enfants, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Truffaut, lui, il avait trouvé la solution.
Effectivement, je navigue entre les histoires d'enfants et les histoires d'amour, c'est certain, parce qu'il me semble que les autres histoires, on ne peut les raconter qu'une fois. Vous voyez, il me semble que si on fait le pont de la rivière Kouai, et ben, 2 ans après, on ne peut pas refaire le pont de la rivière Kouai. Tandis qu'une histoire d'amour n'est jamais la même. Si la fille est plus âgée de 6 ans ou plus jeune de 6 ans, c'est une autre histoire. Et c'est pareil avec les enfants, on n'en a jamais fini. Et des histoires, des projets d'enfants, j'en ai énormément. Mais je ne veux pas les faire, comment dirais-je, à la suite, parce que je n'aimerais pas non plus être spécialisé. Alors je fais de temps en temps un film d'enfants, mais pas deux à la suite. Pour des enfants, on ne peut pas écrire du dialogue. C'est absurde. Un dialogue d'enfant écrit par des adultes, c'est une chose très pénible. Alors les enfants, on leur explique la situation et ils sortent le dialogue avec leurs mots à eux. Ils ont un sens très fort du réalisme, de la vérité. Donc ça, c'est une collaboration. Il faut collaborer avec les enfants. Mais les surprises, les cadeaux qu'ils vous font, les choses qu'ils amènent sont plus fortes que ce que peut amener un adulte. Si vous voulez, avec un adulte, vous avez le scénario qui s'améliore. Ça devient, quand tout va bien, le film devient mieux que le scénario. Quand ça va mal, le film devient un peu moins bien que le scénario. Mais avec les enfants, c'est de 1 à 10. Ça devient fabuleux. Et puis par contre, des moments entiers, il faut les oublier, les laisser tomber parce que l'idée était trop théorique et ne leur convient pas. Il faut donc être très souple. Je dirais pas qu'il faut être prêt à changer d'histoire, mais il faut être prêt à changer les détours de l'histoire.
Noémie Lvovsky, vous êtes beaucoup intéressée dans votre cinéma au regard de l'adolescence sur les adultes. Mais au fond, c'est un peu la filiation aussi avec Truffaut. C'est oui. Comment regarder le monde avec des yeux qui sont restés des yeux de l'enfance.
Oui. J'ai travaillé avec des adolescentes, des adolescents, et puis avec une petite fille qui avait 10 ans sur Demain et tous les autres jours, sur mon dernier film. Et c'est vrai que ça peut être très, 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 très mauvais. Mais si c'est bon, c'est très, 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 très bon. Il n'y a pas de milieu. Et j'ai remarqué, quand c'est très, très, très mauvais, c'est que l'enfant joue l'enfant. Et jouer l'enfant, ça veut dire obéir à ce qu'on croit être la vision des adultes sur l'enfant. Alors, les enfants ou les adolescents peuvent se mettre à jouer l'enfant ou l'adolescent, et c'est hyper mauvais. Mais si on est à leur hauteur, si on a pensé, écrit à hauteur d'enfants ou d'adolescents, et si on travaille avec eux à leur hauteur, et qu'on leur dit non, attends, je n'ai pas du tout de cliché de l'enfance. Je ne crois pas qu'un enfant doit être comme ça ou comme si. Je ne crois pas qu'un enfant doit être forcément mignon. Alors, si on balaye tout ça, alors il y a des trésors quoi qui apparaissent, des merveilles d'acteurs et d'actrices. Alors qu'ils n'ont la plupart du temps jamais joué.
Eh bien, Loï Milowski, il me reste à vous remercier d'être venu nous parler si joliment de François Truffaut.
Merci
à l'occasion de la sortie de ce très beau coffret de 8 films qui ont été complètement restaurés. Il ne faut pas manquer les bonus parce que c'est réjouissant. Et les textes de tous ces réalisateurs et réalisatrices contemporains qui écrivent sur François Truffaut pour nous faire partager leur amour. Et pour le plaisir, en se quittant, on va se dire au revoir sur la voix de François Truffaut, bien entendu. Merci Noé Milowski, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Ce que nous faisons est plus important que nous-mêmes. Ça, c'est une question qui ne fait pas l'unanimité, parce que quelqu'un comme Sartre dit toujours que ce que nous sommes est plus important que ce que nous faisons. Mais quand même, c'est ce que nous faisons qui reste. Et si nous donnons plus d'importance à ce que nous faisons ou à notre travail qu'à nous-mêmes, eh bien, à ce moment-là, évidemment, on fabrique des objets ou on fait quelque chose qui peut lutter, qui peut résister, qui peut éventuellement résister. Bon, ça résiste un moment, ça ne résiste pas longtemps, ça ne résiste pas définitivement, mais ça résiste plus que nous-mêmes.